avez rendez-vous à 9h30, il est midi.
Je suis pas du tout du matin.
Ah bon, une troisième à l'apéro de midi, toujours du blanc. À déjeuner, s'il y a de la viande, je peux passer au rouge, sinon je reste blanc. Tous les deux. Bon, après, il faut une sieste.
Parce que je dois 50 francs à mon propriétaire qui vient encaisser à midi. Quelle heure est-il ?
Midi, moins le quart.
Midi 15, rire de gorge évoquant l'orgasme. Motif, plaire au mâle dominant.
Alors, on n'entend pas mon micro. Voilà, c'est bon. Manifestement, Léa, tu étais un peu en bug. Qu'est-ce que Transistor peut bien faire sur le temps du midi, à part une émission qui s'appellerait Transistor Midi? Eh bien, c'est tout à fait ce qu'on vous propose. Bonjour, chers auditeurs.
Bonjour, chers auditeurs. Il est midi sur Transistor.
Non, il est 11h56. On est en avance.
Oui, mais l'horloge de Transistor, c'est une horloge très particulière. Elle s'adapte. Et au lieu de nous attabler comme de bons vieux gaulois vides de tripes et de graines véganes, n'oublions pas les véganes, nous restons sur le plateau pour vous délecter les oreilles. C'est parti pour Transistor Midi, et je suis accompagnée par Marie. Rebonjour Marie.
Et rebonjour Sarah. Et je tiens à signaler que nous avons une troisième co-animatrice, elle s'appelle Madame.
C'est Madame.
C'est un magnifique poulpe qui agite actuellement ses tentacules pour vous saluer. Si vous êtes en cantor, vous êtes chanceux. Vous la voyez. Si vous êtes chez vous, tant pis pour vous, mais tâchez d'imaginer. On a parlé suffisamment d'imagination à la radio aujourd'hui. Alors, nous avons, chers auditeurs et auditrices, 2 heures devant nous, donc installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil, sur votre chaise, peu importe l'endroit où vous êtes. Pour cette grande pause déjeuner, nous vous avons prévu un programme riche en fibres, en acides gras saturés, en culture et en création. Au menu de ces 2 heures, on aura du cinéma, de la musique, des expositions, un débat littéraire, des fictions radiophoniques, tout ça au menu rien que pour vous. À 13h30 tout à l'heure, on vous donne rendez-vous, ce sera l'heure de jouer avec notre nouveau jeu radiophonique « Des poils plein les yeux ». Vous avez bien entendu ce titre un peu abscon, mais vous aurez l'occasion d'en savoir un petit peu plus tout à l'heure si vous restez avec nous. Et à 13h45, nous recevrons notre invité pour Transistor Midi, il s'agit de Cas d'École, peut-être que vous en avez entendu parler, il s'agit de la web radio de l'Institut français de l'éducation, alias l'IFE, alias le bâtiment Buisson.
Mais avant toutes ces réjouissances, gardez votre estomac bien accroché. On va commencer par le journal de François René et de Maë. Et comme on le sait très bien, les actualités secouent parfois un peu les tripes. Êtes-vous prêt à digérer les dernières actus?
Au national d'abord, depuis lundi a commencé l'évacuation d'une partie de la ZAD, soit zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. En janvier, on le rappelle, Édouard Philippe annonçait l'abandon du projet d'aéroport, objet de toutes les contestations, et sommait en même temps les zadistes de quitter les lieux avant le 1er avril, fin de la trêve hivernale. La ZAD, c'est, il faut le rappeler, plus qu'une manifestation militante. Ce sont aussi des terrains agricoles occupés, certains depuis 2009, des personnes qui y vivent, tout un petit monde qui s'invente et réinvente le vivre ensemble dans ce laboratoire à ciel ouvert.
L'occupation est illégale, le ton est militant, mais comme le souligne l'avocate Ainhoa Pasquale, le site de Notre-Dame-des-Landes ne relève pas du domaine public. Elle appartient au patrimoine privé de l'État.
Pour permettre l'expulsion, il faudrait donc qu'il y ait une atteinte à la tranquillité, la salubrité ou la sécurité. Et il faudrait également des ordres d'expulsion en bonne et due forme, ce dont les forces de l'ordre ont décidé de se passer. 2500 gendarmes, 4 véhicules blindés face à environ 300 zadistes, l'évacuation devrait continuer toute la semaine et elle a repris en tout cas ce matin à 6h comme l'ont communiqué les zadistes dans un communiqué tout simplement. Elle a déjà fait cette expulsion une dizaine de blessés parmi les gendarmes et une trentaine parmi les militants dont 2 sont hospitalisés. La mobilisation dans les universités continue cette semaine. À Paris, d'abord, l'intervention lundi des CRS à la demande du président de la fac de Nanterre, Jean-François Bollaudet, a avivé les tensions. Lors d'une assemblée générale hier, près de 600 personnes, étudiants, personnels administratifs et enseignants, ont voté pour le blocage et l'occupation reconductible de l'université. Plusieurs sites à Paris 1 et à la Sorbonne sont également bloqués, ainsi qu'à Rennes, Rouen, Orléans, Lille, Nancy, Metz, Bordeaux, Nantes, Limoges, Pau, Strasbourg et Grenoble. À Toulouse et Montpellier, les facs du Mirail et Paul Valéry sont quant à elles complètement à l'arrêt.
À Lyon enfin, c'est à la fac de Lyon 2 que ça bouge, avec l'occupation et le blocage du site des quais depuis la fin de la semaine dernière. Ce matin, sur le site de Bron, a également lieu un blocage.
Ces mobilisations étudiantes, on le rappelle, protestent contre la loi orientation et réussite des étudiants, ORE, accusés d'instaurer la sélection à l'entrée de l'université. Elles viennent s'ajouter au mouvement de grève de la SNCF qui, vous n'aurez pas manqué de le remarquer, est venu perturber ces dernières semaines et compte bien continuer à perturber le réseau ferroviaire. Aujourd'hui a lieu une manifestation nationale des avocats, magistrats et greffiers contre la loi de programmation de la justice.
Malgré les concessions obtenues ces derniers jours par les avocats, la réforme de la justice continue d'inquiéter avec la fusion des tribunaux d'instance avec les tribunaux de grande instance et la suppression du statut de juge d'instance.
On craint aussi dans le milieu les transferts de certains contentieux vers les grands tribunaux ou les grandes cours d'appel, ce qui engendrerait un risque de dévitalisation lente des petits tribunaux et des petites cours. La manifestation nationale et unitaire aura lieu à partir de 13h à Paris et partira de la place Dauphine. On essaiera de vous en donner des nouvelles dans un flash info de cet après-midi.
Encore une petite nouvelle nationale d'abord, comme ça, ce sera cohérent. L'affaire Giscard Samba, le monde de l'athlétisme français est dans la tourmente après l'enquête publiée par Le Monde et les accusations de viol et d'agression sexuelle qui y sont portées contre l'un des entraîneurs les plus réputés dans les courses de haies, Giscard Samba. Il a notamment entraîné Dimitri Bascou, troisième des Jeux de Rio au 110 mètres haies, et Cindy Billot, la co-détentrice du record de France du 100 mètres haies. Or, le 1er avril dernier, le journal Le Monde révèle qu'une plainte pour viol a été déposée contre lui par une athlète qui a préféré garder l'anonymat, plainte qui remonte à plus de 9 mois, déposée au commissariat de Créteil. D'autres athlètes ont depuis témoigné des pratiques douteuses de leur ex-entraîneur. Ah oui, bon.
À l'international maintenant, du coup.
Ah bah non, bah du coup.
Non. Je te laisse finir.
Je finis. Non, c'était une relance, mais c'est pas grave. Okay. Alors, face à l'ampleur médiatique que prend l'affaire, on commence à se demander pourquoi la plainte n'a pas été instruite depuis. Et hier, on apprend que la plainte n'avait pas été communiquée au parquet par le commissariat de Créteil. Je cite un policier, « Elle n'a pas été mise de côté parce qu'elle dérangeait. C'est juste une grosse boulette de ma collègue. » Évidemment que cette affaire aurait dû remonter. Que cette version soit vraie ou totalement inventée, dans ces cas-là, le meilleur parti est de s'en remettre à la sagesse populaire et goguenarde qui se dit que malgré tout, mieux vaut entendre ça que d'être sourd.
Donc, à l'international maintenant, au Brésil, Lula a passé ses premières nuits en prison.
Oui, dans l'après-midi du samedi 7 avril, après une messe en hommage à son épouse défunte et un long plaidoyer de 55 minutes, l'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a fini par obéir à la justice en se rendant au siège de la police fédérale de Curitiba 24 heures après l'expiration du délai fixé au vendredi 6 avril à 17h par le juge. Il avait été condamné en janvier à purger une peine de 12 ans et 1 mois de prison pour des faits de corruption qu'il a toujours nié. Cette peine a ensuite été confirmée le 4 avril et ce à 6 mois d'élection présidentielle dont il était donné favori.
Les bagarres entre les pros et les anti-Lula auront émaillé les mobilisations de ces derniers jours.
Des affrontements emblématiques des déchirures du pays et des sentiments mêlés suscités par l'opération anticorruption, Lava Rato, c'est-à-dire lavage express. La figure de Lula elle-même est l'objet de passions contradictoires. Une vénération mêlée chez beaucoup à de la déception face aux compromissions des années passées à la tête de l'État. Les uns pleurent donc la disgrâce de celui qui est surnommé le père des pauvres, les autres célèbrent sa chute. Difficile en tout cas de deviner l'impact que ce choc provoquera sur la destinée du pays.
En Birmanie maintenant, le 6 avril, un éditorial du Monde faisait le bilan critique des 2 années passées au pouvoir par le parti d'Aung San Suu Kyi.
Oui. Après des années de résistance digne et courageuse contre la dictature, dont une 15aine passée assignée à résidence, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, a réussi à arracher à la junte militaire une transition négociée et des élections. Son parti, la Ligue nationale démocratique, LND, a remporté une victoire écrasante aux premières élections libres de l'automne 2015. ayant été mariée à un Britannique, la Constitution ne l'autorisait pas à briguer la présidence et elle occupe donc un poste équivalent à celui de première ministre. Il semble malheureusement que Aung San Suu Kyi, maintenant âgée de 72 ans, ait mieux réussi dans l'épreuve de la dissidence que dans l'exercice du pouvoir. Son autorité reste considérablement limitée par les termes de l'accord passé avec les militaires, puisque 25% des sièges du Parlement leur sont réservés et ils ont gardé tous les leviers de l'appareil sécuritaire.
Le plus grand reproche qui lui est fait à l'étranger est celui de sa passivité face à l'opération de nettoyage ethnique de l'armée birmane ayant chassé les musulmans Rohingyas vers le Bangladesh.
Il n'était probablement peu réaliste pourtant d'attendre d'elle qu'elle puisse empêcher les forces armées de commettre ces violences. Le bilan n'est cependant pas plus brillant dans les domaines où sa marge d'action est plus grande, comme l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté, mais aussi la liberté de la presse, qui était pourtant un grand acquis de la transition démocratique. La faute notamment, selon l'éditorial, à un parti trop fermé sur lui-même, dont les hauts postes sont réservés aux anciens compagnons de route d'Aung San Suu Kyi, au détriment des jeunes. C'est d'ailleurs l'un de ses proches qui vient d'être nommé à la présidence. Réputé plus motivé et moins effacé que son prédécesseur, il faut souhaiter à la Birmanie qu'il apporte le nouveau souffle dont la politique du pays a besoin. Et c'est tout pour le journal.
Alors, Maë, François-René, merci à tous les deux pour ce journal riche en informations internationales et nationales. Alors, chers auditeurs et auditrices, à l'heure qu'il est, midi 6, vous êtes sans doute en train de commencer à cuisiner ou au moins en train de commencer à déballer votre sandwich en ces jours de restaurant universitaire fermé.